BFM Bourse, on refait la séance.
Grâce à Nicolas Lasserie, gérant action pour Mandarine Gestion. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue. Franck Morel aussi nous accompagne, le président de Zone Bourse. Bonsoir Franck. Ravi aussi de vous retrouver.
Bon, bonsoir à tous.
Petite variation, mais enfin, on a quand même signé un nouveau record aujourd'hui sur l'indice CAC 40. On le rappelle, c'est pas tous les jours. Enfin, si, c'est tous les jours. Ben voilà, le record du jour, 8230 points sur l'indice CAC 40. Vous êtes à l'aise avec cette hausse des marchés ou vous estimez, Nicolas, que le marché monte un petit peu à vide là, en ce moment ?
Il ne monte pas vraiment à vide. Hein. En fait, il y a une diffusion de la hausse qui a été très concentrée en début d'année et qui est en train de se diffuser au secteur cyclique et également aux petites et moyennes valeurs. Donc, c'est plutôt sain. Donc, pour l'instant, on est plutôt à l'aise. Après, la grosse question, c'est de savoir quel va être le catalyseur de la suite de ce rebond, peut-être les baisses des taux à venir. Donc on n'a pas vraiment de signaux d'alerte pour l'instant, on se laisse porter.
Oui, et vous constatez vous aussi, vous les suivez les small et mid chez Mandarine, vous constatez vous aussi un petit regain d'intérêt là sur les small et mid. Vous n'êtes pas le premier à nous le dire là depuis le début de la semaine. Oui, ça revient, la collecte revient un petit peu sur les petites et moyennes valeurs.
On sent un frémissement grâce aux attentes de baisse de taux, des résultats des entreprises qui n'ont pas été si mauvais que ça, et finalement une situation économique en Europe qui se stabilise. Et qui pourrait également reprendre à partir du deuxième trimestre. Donc des éléments plutôt favorables, oui, pour les small et mid.
Franck, même question. Est-ce qu'à vos yeux, le marché monte à vide ? Est-ce que la hausse, est-ce que le record du jour sur le CAC 40 sonne creux ? Ou au contraire, vous estimez qu'il y a des raisons de penser qu'on est sur un cycle aussi amené à durer ?
Bon, pour moi, le marché est correctement pricé sur ces niveaux. On n'a pas un potentiel fou en l'état. On n'a pas non plus de risque majeur. La suite aux prochains épisodes liés à l'inflation notamment.
Il y a une valeur qui cartonne aujourd'hui, H&M a publié ses résultats, le spécialiste suédois de l'habillement, plus combien là en clôture pour H&M, on le voyait tout à l'heure à plus 16, on termine à plus 15,5 H&M, plus 15,5, les marges largement au-delà des anticipations, le fait que ce titre gagne 15,5%, ça dit quoi ? Ça dit que H&M c'est de la balle, enfin H&M c'est formidable, ou ça dit que le marché a beaucoup de réservoirs de hausse encore à venir ? Comment est-ce que vous interprétez une telle progression de 15,5, Nicolas ?
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a il y avait des craintes globalement sur la consommation qui sont fortes depuis le début de l'année, avec des craintes de perte de pouvoir d'achat. Et là, on voit dans cette publication que même si elle n'est pas flamboyante, finalement il n'y a pas de ralentissement fort de la consommation. Ensuite, il y a des éléments spécifiques. L'impact, la marge est clairement supérieure aux attentes, et ça crédibilise l'atteinte de 10% de marge par H&M en fin d'année. Donc c'est plutôt rassurant. Après, sur H&M, je pense qu'il faut quand même faire attention, parce que c'est un modèle qui est très dépendant des importations en provenance d'Asie. Mmh. Donc c'est un désavantage par rapport aux concurrents. Ça ne permet pas à H&M d'être assez réactif face par définition à un secteur où la mode est très importante. Et également, c'est un désavantage d'un point de vue ESG, avec un bilan carbone qui n'est pas bon.
Ah bon ? Ah oui, vous cassez l'ambiance là. Non, H&M donc qui, en tout cas, gagne un peu plus de 15% ce soir en clôture. Même question, Franck. Est-ce que ça dit plus du marché que de la qualité d'H&M, là, le fait que ce titre parvienne à gagner ce soir 15%? Est-ce que ça dit plus de l'état du marché, de son potentiel, son réservoir de hausse encore à venir, que de la qualité intrinsèque d'H&M?
Donc H&M, le challenger de Inditex, qui avait publié il y a quelques semaines largement aussi au-dessus des attentes, qui est assez sur ses plus hauts historiques. Inditex, c'est à peu près 7 fois plus gros que H&M en termes de capitalisation. Donc Inditex est mieux valorisé que H&M, qui a des niveaux de marge bien inférieurs et qui justement bataille pour avoir des niveaux de rentabilité qui sont actuellement autour de 6,5% pour arriver à 10%. La publication de ce jour a été extrêmement bien accueillie, quand bien même le chiffre d'affaires est sorti comme attendu par les analystes. La rentabilité était très largement au-dessus des attentes, puisque vous avez en gros un résultat net de 1,2 milliard de couronnes suédoises contre 700 millions attendus. Donc on est quasiment sur deux fois ce qu'attendaient les analystes. Donc c'est ce qui explique la très forte progression du titre aujourd'hui. Et ça donne effectivement du crédit à la stratégie de réduction des coûts qu'a entamé H&M, qui veut absolument arriver à des niveaux de rentabilité plus proches de ceux qu'Inditex, qui est clairement le meilleur élève de la fast fashion. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Les indications en bas de l'écran, elles sont que la fast fashion, le low cost, ça fonctionne. Donc en gros, il faut être soit dans le luxe, soit dans la fast fashion. Ça fait déjà un moment que ça dure. C'est une nouvelle fois confirmé. Après, si on devait choisir entre Inditex ou H&M, on choisirait Inditex parce qu'on a une visibilité beaucoup plus forte et des marges plus élevées pour un chiffre d'affaires beaucoup plus international.
Il y a un rendement aussi intéressant d'Inditex, le dividende. On va rentrer d'ailleurs dans la saison de versement des dividendes. Est-ce qu'il y a une valeur comme ça, Nicolas, dont vous vous dites celle-ci, ce groupe coté en bourse, il va non seulement délivrer, offrir un bon rendement à travers le dividende, mais en plus il offre un beau potentiel de hausse encore en bourse. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir comme ça une idée de valeur dont vous vous dites c'est le meilleur des deux mondes, à la fois du rendement grâce au dividende et encore un potentiel de hausse en bourse?
Dans cette idée, on aime bien Bureau Veritas, qui est une société qui a un rendement de 3%. Donc, ce n'est pas très élevé, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un rendement qui progresse de 10% par an depuis 10 ans. Donc, une croissance du dividende. Et en plus, c'est une société qui rachète des actions à hauteur de 1,5% du capital par an. Donc, au global, le retour aux actionnaires est bon. Et l'aspect croissance nous semble très important parce que ça reflète en fait les bons fondamentaux de la société, qui est une société de croissance. Et qui a également du levier sur sa marge.
Donc pourquoi pas Bureau Veritas? Voilà, meilleure alliance des deux mondes, meilleur alliage, le meilleur des deux mondes, à savoir le rendement et le potentiel de hausse en bourse. Même question, Franck, une valeur comme ça qui offre le meilleur des deux mondes et qui va verser son dividende dans les prochaines semaines?
Alors il faut effectivement s'intéresser au meilleur des deux mondes, c'est-à-dire certainement pas aller chercher les sociétés qui versent les plus gros dividendes, parce que c'est généralement des sociétés qui ont des problèmes et qui tentent de maintenir leur cours en appâtant les investisseurs avec des dividendes avec très élevés. Et donc vous avez souvent des sociétés matures, des sociétés très endettées, des sociétés dans des situations particulières où vous avez un risque qui est généralement bien plus important que les 2% ou 3% que vous allez avoir en plus de rendement par rapport à des sociétés beaucoup plus saines. Donc l'exemple de Bureau Veritas en était un. On a Inditex par exemple qui verse du 4% de dividendes. En gros, quand vous allez en ce moment sur le niveau de prix actuel, quand vous allez au-dessus de 4%, c'est qu'il y a une raison et que ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc attention à la fausse bonne idée.
C'est dit. On vous rappelle, ce soir, la clôture du CAC 40. Il termine en hausse, notre CAC. Une petite hausse ténue, étroite, timide, plus 0,25%. Mais enfin, en séance, on a quand même touché un nouveau record, nouveau plus historique. C'était vers 15h40 tout à l'heure. On l'a vécu en direct, d'ailleurs, dans BFM Bourse. Le CAC était alors à 8230 points, nouveau plus haut historique. Notez aux États-Unis qu'il y a une valeur sur un plus haut aujourd'hui. C'est pas une GAFAM. On est dans la santé. C'est Merck. Merck qui bénéficie du feu vert de la FDA pour son traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, chaque injection coûtera aux patients 14 000 $. C'est pas donné. C'est John Plassard qui nous disait tout à l'heure dans USA Today. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible sur notre site. Mais donc Merck aujourd'hui, du coup, en profite du feu vert de la FDA et gagne plus de 4%, nouveau plus historique pour ce titre Merck. Et on va rester avec vous, Franck, aux États-Unis à travers l'intelligence artificielle. On en a pas encore parlé. Il est temps de se rattraper avec ce titre MicroStrategy. MicroStrategy lance un robot d'IA personnalisable. Qu'est-ce que ça vous inspire, Franck?
Oh bah ça m'inspire que la société MicroStrategy est une société qui a une notoriété extrêmement forte, alors que finalement elle ne fait que 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils mettent tout leur cash, mais j'ai bien dit tout et depuis longtemps, voilà, pour le coup ils ont bien fait, dans le Bitcoin. Donc c'est aujourd'hui le plus gros détenteur de Bitcoin, de tous les détenteurs possibles et imaginables d'investisseurs en Bitcoin. C'est MicroStrategy qui détient le plus la plus grosse position, puisque qu'ils ont 200 000 environ Bitcoin, soit l'équivalent de 14 milliards de dollars sur la base des cours actuels. Donc la société, elle vaut 34 milliards de dollars en bourse, mais en fait, elle a ce niveau de valorisation essentiellement parce que elle détient énormément de Bitcoin et l'évolution de son cours fluctue directement en fonction évidemment des cours du Bitcoin compte tenu du poids. Son activité d'édition de logiciels qui lui permet donc de faire ses 500 millions d'euros de chiffre d'affaires est donc valorisé aujourd'hui dans les 18 milliards de dollars, ce qui est juste stratosphérique. Et l'annonce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est finalement la société est spécialisée dans la fourniture d'outils de reporting, de dashboard pour les sociétés. Et donc elle va simplement, elle a fait une com aujourd'hui qui laisse entendre que ses clients vont pouvoir faire des requêtes et avoir des réponses fournies par l'intelligence artificielle sur la base de leurs propres propres données qu'ils ont importées dans leurs outils de reporting. Donc, pas d'infos majeures aujourd'hui au niveau de l'activité de MicroStrategy, dont le cours restera essentiellement lié à l'évolution du Bitcoin et qui me paraît aujourd'hui très fortement valorisé, indépendamment de l'évolution du Bitcoin.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'annonces en matière d'intelligence artificielle, sauf MicroStrategy, qui donc promet un robot personnalisable d'intelligence artificielle, mais vous nous dites c'est peut-être d'abord de la com. Voilà, et c'est d'abord une valeur Bitcoin, ce titre MicroStrategy, avant d'être une valeur d'intelligence artificielle. Romain Dobry est avec nous, puis Bourse Direct, toujours. Merci Romain d'être toujours avec nous. Est-ce que, d'un point de vue technique, MicroStrategy, très lié, c'est vrai, au cours du Bitcoin, a beaucoup de potentiel encore à la hausse, d'après vous? D'un point de vue boursier, hein, c'est, bien sûr, ça dépend du Bitcoin, parce qu'ils détiennent énormément de Bitcoin dans leurs réserves, mais est-ce que boursièrement, techniquement parlant, vous estimez que ce titre doit encore progresser ?
Alors, il peut encore progresser un peu. Il a formé une petite consolidation, enfin une petite grande en amplitude, mais petite en temps, entre le 15 et le 25 mars, dans une structure en triangle. Il en est sorti par le haut puissamment. Le parcours reste donc haussier. On est proche de la cible idéale de ce mouvement, ce qui est situé entre 2022 et 2044. Le titre cote environ 1916 à l'instant. Reste que depuis une ou deux séances, les volumes sont quand même en baisse de façon assez significative. Donc ça, c'est toujours à surveiller dans un mouvement haussier. Ça peut être un signal de manque de momentum. Si on arrive à déborder le niveau de 2044, la résistance suivante et une cible majeure pour le titre, c'est 2169. Donc les niveaux d'alerte sont loin, c'est 1782. Ce serait une première brèche dans la tendance. Le retournement de tendance, il est vraiment très loin aussi. C'est 1523, mais il faut dire que c'est un titre qui a pris près de 200% depuis la réactivation haussière formée début février.
Nicolas, si je vous parle d'intelligence artificielle, ça vous amène vers quelle valeur? Quel est votre chouchou là, comme ça, au-delà d'Nvidia? Bon, toujours les mêmes. Est-ce qu'il y a une valeur spécifique dont vous vous dites celle-ci, elle est aussi bien positionnée sur l'IA et on n'en parle peut-être pas assez?
Oui, y en a beaucoup hein, dans le compartiment des petites et moyennes valeurs. En Europe, il y a une société qu'on aime bien qui s'appelle Munters, qui est une société suédoise de moyenne capitalisation. Et eux, ils sont exposés au métier des data centers. En fait, ils font de la réfrigération de data centers. Ils permettent de les refroidir. Et donc, leur activité bénéficie clairement de l'IA et de l'explosion en cours du marché des data centers, hein, puisque c'est un marché qui est 7 fois plus gros actuellement qu'il l'était en 2020.
En 4 ans, x7.
Ah oui. Ouais. Donc un vrai boulevard de croissance, et ça se voit dans les chiffres, bien sûr, de Munters. Donc une société dans cette thématique-là qu'on aime bien.
Munters, donc un ricochet de l'intelligence artificielle à travers l'activité de data center nécessaire. Et donc ils refroidissent les data centers, c'est
exactement
ça leur travail. D'accord. M-U-N-T-E-R-S. Par contre, c'est pas éligible au PEA, du coup, c'est une société suédoise. Si, c'est éligible au PEA,
c'est
quand même.
Éligible au PEA, oui.
Parce oui, ça me semble l'être.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Bon, ben voilà, pourquoi pas une idée. Non, mais d'un point de vue fiscal, c'est intéressant. En plus, on va rentrer dans la période de déclaration fiscale. On a beaucoup de questions, d'ailleurs, sur la fiscalité, donc autant en parler. Bon, le CAC 40, ce soir, gagne 0,2%. Il y a un titre, une société qui choisit de changer de nom, parce que plastique, en ces temps de verdissement de l'économie et de ESG, plastique, ça fait pas une bonne promotion. C'est Plasticomium qui nous annonce qu'il va changer de nom désormais. Alors, il va falloir s'y faire. Quel sera le futur nom de Plasticomium? Ce sera OP Mobility. Voilà, c'est mieux que Plasticomium. Vous achetez ce nouveau nom, Nicolas?
Pas forcément. Bon, ça reflète en fait que la société a besoin de se transformer et est en train de se transformer, mais c'est très long. Hein. C'est une société qui dépend beaucoup du moteur thermique, qui est une activité qui génère beaucoup de cash pour Plasticomium et qui maintenant se diversifie dans l'électrique et l'hydrogène. Elle en est encore au début, donc on va attendre un petit peu. D'autant plus que on est sur un secteur où le pricing power est maintenant plus dans la main des constructeurs, donc attendons.
Oui, il suffit pas de changer de nom pour faire évoluer son potentiel boursier. Je vous sens très très prudent sur le potentiel de.
Espérons que ce soit un début, mais
voilà.
On attendra.
Ce groupe donc OP Mobility, le nouveau nom de Plasticomium. Merci à tous de nous avoir accompagnés ce soir. Nicolas Latsry pour Mandarine Gestion, Franck Morel depuis les bureaux de Zone Bourse au bord du lac d'Annecy. Il neige chez vous, près de chez vous là, Franck, ce soir.
Ouais, exactement.
Eh oui, la saison du ski n'est pas encore complètement terminée. Eh oui, il neige juste avant le week-end de Pâques en plus, c'est bon, profitez-en. Merci beaucoup aussi à Romain Dobry qui surfe avec nous chaque soir, chaque jour dans BFM Bourse depuis les bureaux de Bourse Direct. Bonne soirée Romain et merci à tous de nous avoir accompagnés. Ce soir, le CAC 40 a donc progressé un peu de 0,25%. Dans un instant, Guillaume Paul, toute sa team, Audrey Tcherkov, Edith Chevrillon, Good Evening Business jusqu'à 20h. Bonne soirée à tous.